France Inter. Philippe Bertrand.
Carnet de campagne, bonjour. Cap sur les mers et les océans aujourd'hui. Tout d'abord, c'est une pollution assez fréquente qui va nous conduire vers Marseille et La Ciotat, celle des filets de pêche perdus en mer et des engins de pêche usagés. Mieux gérés, dépollués, recyclés sont les missions de Click Dive, entreprise dirigée par Sabine, première invitée. Et puis, reprendre l'itinéraire suivi par Darwin sur son bateau il y a 200 ans. C'est le défi écologique et scientifique lancé par Victor Roux sur son bateau qui nous attend tout à l'heure dans la deuxième partie sur une île du Cap-Vert.
Carnet de campagne. Le journal des solutions.
Sabine Meneux, bonjour.
Bonjour, merci pour l'accueil.
Avec plaisir, soyez la bienvenue, vous qui dirigez depuis 2020 l'entreprise Click Dive. D'abord, parlons de vous, vous forte d'un BTS en gestion et protection de la nature. À Marseille, enfin plutôt du côté de La Ciotat, vous découvrez la plongée et vous rencontrez énormément de filets de pêche perdus en mer.
C'est ça, en fait, quand je me suis mise à plonger en 2016, je suis tombée sur deux ou trois filets de pêche perdus. Et je me suis retrouvée à avoir les mêmes clichés que beaucoup de monde sur pourquoi les pêcheurs ils jettent leurs filets en mer, est-ce que c'est volontaire, pourquoi. Et finalement, j'ai pris un peu mon courage à deux mains et je suis allée voir la personne concernée, je suis allée voir un pêcheur professionnel qui m'a dit « mais non, pas du tout, on les jette pas volontairement, on les perd ». Pour nous, c'est une double perte économique, on perd un filet, donc déjà il y a un coût, puis après ça va continuer de pêcher pendant au moins 3 ans. Mais nous, le plus gros problème en tant que pêcheurs professionnels, c'est la gestion des filets de pêche en fin de vie. Mmh. On en jette beaucoup plus que ce qu'on perd.
Est-ce qu'on peut les recycler ?
Alors, les filets perdus en mer, c'est encore compliqué aujourd'hui, il n'y a pas de solution au niveau mondial. Par contre, les filets qu'on peut récupérer sur les quais directement quand on met une bonne filière en place, c'est ce qu'on propose, oui, ils sont recyclables.
Oui.
C'est un plastique qui est recyclable quand il est traité à temps.
Et vous avez pour ce faire un partenaire qui s'appelle Fil et Fab ?
Exactement, on a Filet Fab, donc il y a un partenaire à Brest. C'est la seule entreprise de France à être capable de broyer et d'échiqueter les filets pour les transformer en granulés, donc les reproduire en plastique, une matière première. Et ce plastique peut être réutilisé par des marques comme Armorlux, qui ont fait des lunettes de soleil, des lunettes de vue, Ulysse Nardin qui a fait une montre, et là récemment du fil pour imprimante 3D, avec du 100% filet de pêche, et ça c'est notre engagement, que ce soit avec notre partenaire ou nous de notre côté, de fournir une matière qui soit 100% recyclée et recyclable.
Mmh. Quelle est la mission de Glockis ? À quoi correspond cette action ?
Alors cette action, elle a pour objectif d'accompagner les territoires, les collectivités, les gestionnaires d'espaces naturels qui vont avoir une gestion de ports de pêche, mais c'est surtout pour soutenir la pêche artisanale dans la gestion d'un déchet en fin de vie, donc le filet de pêche. Donc on a une partie d'expertise, d'audit et d'accompagnement, on a mis en place un protocole qui nous permet de faire les estimations des volumes par an, par pêcheur, et du coup de personnaliser la filière avec des chantiers en réinsertion qu'on va former pour aller collecter et trier les filets de pêche, et puis d'optimiser la filière en disant qu'une fois par an, on va envoyer les filets de pêche à Brest pour une valorisation. Et donc, par exemple, si je prends le cas de la région Occitanie où on va démarrer à partir de janvier, on va pouvoir récupérer entre 15 et 20 tonnes de filets de pêche qui vont être recyclés à partir d'avril ou mai 2022.
Oui. Si j'ai tout compris, Sabine, lorsque vous arrivez en 2020 à Click Dive, vous changez par votre intervention et vos compétences la stratégie de l'entreprise. Click Dive, c'était surtout une promotion d'activités subaquatiques en créant une communauté de plongeurs.
En effet, effectivement, Click Dive, qui a quand même été fondée par Brice et Bénédicte, l'origine, c'était d'accompagner les plongeurs sur une meilleure expérience. Donc on a quand même les outils qui sont en ligne et qui vont être présentés au Salon de la plongée à Paris en janvier. Mais c'est surtout aussi de communiquer sur la réduction du plastique, parce que ce soit un club de plongée ou même les pêcheurs, ils voient la pollution marine. Et donc pour nous soutenir et pour soutenir des associations qu'on considère actives, on a créé une marque qui s'appelle le savon des plongeurs, et ça nous permet d'accompagner et de soutenir des associations comme le Centre de soins des tortues marines ou Aileron qui fait de la sensibilisation sur les requins et les raies. Et à part mon entrée dans l'entreprise, On s'est dit qu'effectivement, la stratégie aujourd'hui, c'était répondre à un besoin, c'était d'accompagner vraiment ces territoires sur la gestion des déchets en fin de vie, surtout sur la pêche, parce que aujourd'hui, il n'y a aucune filière réellement qui a été mise en place, et c'est seulement depuis 2 ans, avec Filesab, qu'on commence à le faire en Bretagne, en Normandie, ici en Occitanie, en sur la Méditerranée. L'objectif, bah, c'est de créer une filière nationale.
Et on a l'impression qu'on déclare et on déplore toujours la même étendue des dégâts, mais sans avoir de solution plus globale.
Alors, les filets de pêche, nous a fallu 6 ans avec notre partenaire Filesab pour arriver à trouver les machines qui correspondent. Ils ont dû partir à l'étranger, toujours en Europe, mais ils ont dû quand même quitter le territoire français pour trouver des machines, trouver des partenaires qui avaient envie de faire évoluer les machines en répondant à cette problématique où le déchet, il est rempli de sable et éventuellement de matière organique et de bactéries. Donc, il a fallu aussi convaincre les politiques, les collectivités que oui, le filet de pêche était une pollution. Et aujourd'hui, les filets sont intégrés enfin dans une responsabilité élargie des producteurs qui va voir le jour en 2025 par la création d'un éco-organisme. Il aura fallu plusieurs années pour nous, pour convaincre que c'était important de partir là-dessus.
Une dernière chose, ça c'est pour la carte postale, un petit peu quand même pour les fêtes de fin d'année. Quel est votre spot de plongée idéal, préféré?
Alors moi j'adore plonger vers la Calanque du Mugel, à La Ciotat.
Très bien.
Je reste chauvine. C'est là où j'ai commencé.
Oui, j'ai cru comprendre.
Tout a démarré.
Le site de l'entreprise, c'est click-dive.com. Merci Sabine.
Merci beaucoup et puis à très bientôt en plongée.
France Inter, carnet de campagne.
Dans le dernier numéro du magazine Village, villagemagazine.fr, il y a des portraits qui m'ont intéressé. Alors, je vous en confie deux. Michael, jeune pharmacien devenu boulanger cocher en s'installant dans les Côtes d'Armor à la ferme de Mazadou, un CAP de boulanger, un brevet professionnel de responsable d'exploitation agricole en poche, et le pharmacien qui a fui la chimie au profit de la nature produit son pain et anime des séjours écotouristiques avec la complicité de son cheval de trait. Ferme mazadou.bzh pour l'adresse. Puis le deuxième vient confirmer l'intérêt grandissant pour l'élevage de bufflone et la production de mozzarella. C'est dans le même département breton que Fanny élève ses bufflones, en effet, ancienne monitrice d'équitation. Elle s'est installée à Plédéliac, près de Saint-Brieuc, en 2017. Un an après, elle commercialise ses premières mozzarella en dehors de ses fromages blancs et yaourts. Elle vient de commercialiser également une pâte à tartiner. Le site, c'est lcdv.fr. Ça, vous le retrouvez à nos pages d'émission. Et puis, d'autres éleveurs ont déjà pris l'option buffle et bufflone, au point qu'une association d'éleveurs bretons a été créée sous le nom de Buffle en zone humide, soit l'abréviation BZH. Il nous attend sur le pont son capitaine Darwin, c'est Victor Rowe. Victor, bonjour.
Bonjour Philippe Bertrand.
Avec vous, on parle d'une aventure que vous avez lancée, dans laquelle vous vous êtes lancé depuis un petit moment, mais que vous entreprenez depuis peu, et merci. Vous êtes en ce moment sur l'île de Santiago, au Cap-Vert, et ça fait partie de votre long chemin, sur les traces du Beagle de Charles Darwin en 1831. Le jeune, de 22 ans, le jeune chercheur entreprend de découvrir le monde. Il part pour 2 ans, ça va durer finalement 5 ans. Vous, réalisateur de films documentaires, vous passez directement sur le bateau d'une grande belle expédition, le capitaine Darwin. Vous pensez passer autant de temps que Darwin sur le bateau ?
Alors effectivement, comme vous l'avez dit, Darwin, il est parti pour 5 ans. C'était assez traditionnel pour un tour du monde à cette époque de partir aussi longtemps. Moi, de mon côté, je vais partir un tout petit peu moins longtemps. A priori, le voyage devrait durer 4 ans. Voilà. Donc on est parti le 12 septembre de Plymouth, comme Darwin en 1831. Et puis on sera de retour à Falmouth, pour le coup, le port où est rentré Darwin, en 2026.
200 ans plus tard, est-ce qu'il y a comparaison possible ? Parce que c'est ce que vous allez entreprendre au cours de cette expédition.
Eh bien, oui, tout à fait. Enfin, moi, c'est vraiment la base du projet, c'est de faire ce comparatif historique des paysages entre ce que, d'un côté, Darwin a décrit en 1830 et quelques, et puis ce qu'on peut avoir aujourd'hui. Alors, évidemment, le comparatif en termes scientifiques, il se fait pas dans les mêmes termes. C'est-à-dire qu'à l'époque, on pratiquait pas la biologie comme on la pratique aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y avait pas forcément de comptage, il y avait pas forcément de statistiques. On était plus sur un descriptif pur et simple des espèces rencontrées. rencontrés. Cela dit, on trouve dans les écrits de Darwin des indications de santé d'écosystèmes, de quelles espèces sont présentes, lesquelles ne sont pas. Et finalement, en retournant sur ces escales, il est assez simple de déterminer l'évolution des écosystèmes en 200 ans en regardant quelles espèces sont présentes. Est-ce qu'il y a encore autant d'espèces endémiques? Est-ce que peut-être il y a des espèces invasives également? Et puis, bah, tout simplement, l'activité humaine aussi, pour le coup, est malheureusement parfois assez facile à voir. Donc, les comparatifs, en tout cas, ici au Cap-Vert, le premier que j'ai fait, est assez évocateur du changement des paysages en 200 ans.
Il s'agit de réaliser une expertise à travers ce tour du monde, donc 200 ans plus tard. Et est-ce que vous avez les moyens d'agir aussi sur place?
C'est une excellente question, parce que effectivement, je pense que le simple constat en soi n'est pas suffisant, n'est plus suffisant. Mais je pense que la sensibilisation, la pédagogie à l'environnement est une part importante du travail qui doit être fait pour construire un monde plus durable. Alors, il y a ce comparatif avec les scientifiques, ça c'est une chose. Mais ce que je fais aussi au fil du voyage, au fil des escales, c'est que je vais rencontrer les citoyens qui sont engagés dans des actions de conservation et je mets en lumière les actions qu'ils font sur leur territoire pour faire en sorte de retrouver des écosystèmes plus dynamiques et plus durables dans le temps.
Ouais.
Et par ailleurs, sur le bateau, on a des moyens de faire des programmes scientifiques exploratoires intéressants, comme ce qu'on a fait sur le poulpe, par exemple, ces dernières semaines, où là, en fait, je propose à des scientifiques de venir et de profiter de la plateforme logistique que peut être le bateau. Et ça nous a permis déjà de faire avancer la science, alors à notre petit niveau évidemment, mais ça reste des programmes intéressants et qui font avancer la connaissance.
Ouais. Il y a peut-être des bonnes nouvelles dans vos découvertes, vous parliez du poulpe, puisque vous avez repéré ou croisé un poulpe à moins 30 mètres, ce qui est rare au Cap-Vert, c'est bon signe?
Alors, en fait, ça n'avait jamais été observé avant dans le cadre d'un programme scientifique au Cap-Vert, et c'est pour ça qu'on était super contents avec Eduardo, qui venait de l'université de Lisbonne, qu'on a observé d'une manière générale sous l'eau. C'était quand même une biodiversité importante, une biomasse aussi assez importante, mais un faible nombre de super prédateurs, assez peu de requins, assez peu de gros poissons, comme les gros mérous par exemple, ce qui a quand même tendance à indiquer un écosystème assez déséquilibré. Moi je dirais que la bonne nouvelle ici au Cap-Vert, elle est plutôt liée à ce qui se passe en surface, parce qu'on a travaillé notamment sur une espèce d'alouette qui a été réintroduite sur une île où elle avait disparu par une association locale. Mmh. Et ça montre que si les citoyens sont bien organisés, s'ils se mettent en réseau avec les scientifiques qui apportent les informations de base, on peut avoir un impact positif et faire en sorte que notre environnement, la nature qui est autour de nous, fonctionne mieux.
Ouais. Et une dernière chose, Victor, est-ce que vous pouvez nous faire un petit peu rêver le décor que vous avez sous les yeux, vos Cap-Vert, parce que nous, à quelques jours de Noël, on est tous pressés là, de terminer la déco du sapin, d'acheter les cadeaux pour les enfants.
Alors, bon, moi, j'ai pas de sapin à bord du bateau.
Non.
Ça, c'est la première différence. Et puis après, bon, c'est vrai que ici, on est au mouillage, à l'ancre, en face d'un petit village de pêcheurs, avec sur la plage plein de barques de pêche très colorées. L'eau est extrêmement claire. Il fait très bon. Il fait 25 degrés à peu près. Il y a un petit vent très agréable. Et puis, bah voilà, le matin, on commence la journée par se baigner dans l'eau claire pour se rafraîchir un peu. Et puis, il y a quelques cailles pyrénées aussi qui sont bues le soir sur la plage.
CaptainDarwin.org ou .fr à suivre. Merci beaucoup Victor et bonne suite pour l'expédition.
Merci Philippe, à bientôt.